Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Antoine Dulster et Bertille Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Le Ridon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Baptiste Lénard. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. C'est Marc Semo qu'on retrouvera tout à l'heure. On va parler de l'Inde aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même, la colère gronde dans différentes régions du pays. Mais elle s'est encore exacerbée ces derniers jours depuis que des milliers de cultivateurs se sont mis à marcher sur New Delhi pour se faire entendre et dénoncer les réformes dans le secteur agricole décidées par le gouvernement de Narendra Modi. Pour éviter les blocages autour de la capitale, les forces de police ont usé de gaz lacrymogène et de canons à eau, aggravant encore les tensions entre le monde paysan et les autorités fédérales. Alors quel risque politique représentent ces mobilisations venues de cette Inde rurale pour le Premier ministre indien? D'ailleurs, en quoi ces récentes réformes posent problème? Faut-il craindre un embrasement social dans un contexte de graves difficultés économiques et même de récession historique et de tensions communautaires récurrentes? On pense évidemment aux violences d'il y a quelques mois autour d'une loi sur la naturalisation discriminante à l'égard des musulmans. Et qu'est-ce que cette colère paysanne nous dit aussi de la fragilisation de la démocratie indienne? Pour évoquer toutes ces questions, on recevra tout à l'heure Catherine Bross et Christophe Jaffrelot. Mais pour l'heure, comme chaque vendredi, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Grèce. Bonjour Elisa Périgueur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, correspondante à Athènes pour Mediapart. Vous rentrez tout juste de Grèce. Vous travaillez depuis un certain nombre d'années, depuis 2012, je crois. Vous venez de signer un article, Elisa Périgueur, sur une pratique qu'on appelle le pushback en anglais, qui se répand dangereusement sur les eaux européennes, en particulier dans la mer Égée. En l'occurrence, votre enquête commence au large de Kızılburun, une langue de terre turque inhabitée et inhospitalière proche de l'île grecque de Simi, dites-vous. Après une petite heure de navigation, on a ce patrouilleur turc qui arrive sur zone, qui repêche à la mer une vingtaine de migrants qui étaient parvenus miraculeusement à s'accrocher à quelques rochers. On y trouve des adultes, des enfants, syriens pour la majorité, et les gardes-côtes embarquent tout ce monde. Et ce qu'on vous explique, qui va être confirmé par de nombreux récits, c'est qu'il s'agit d'une énième opération de pushback. De quoi s'agit-il? Racontez-nous ce que c'est une opération de pushback, comment ça se déroule.
Oui, alors voilà, donc cet article, on l'a fait en collaboration avec mon collègue en Turquie, Nicolas Cheviron, parce que ces pushbacks ont lieu sur la frontière gréco-turque, donc qui est une très longue frontière maritime. Donc ce qu'on appelle pushback, c'est des retours forcés de migrants, en fait, qui partent des côtes turques pour rejoindre la Grèce dans l'espoir de pouvoir gagner l'Europe, souvent l'Europe de l'Ouest. Et donc c'est une pratique qu'on a vu s'intensifier ces derniers mois entre la Grèce et la Turquie. Donc les bateaux sont renvoyés du côté turc et donc a priori par les gardes-côtes grecs qui organisent ces retours. Et c'est une intensification qu'on a notée depuis à peu près le mois de mars, sachant que cette pratique a toujours existé.
Si je me trompe pas, Elisa Périgueur, on fait pas que repousser les bateaux. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, on fait monter tout le monde à bord. Ensuite, on met à l'eau des petits bateaux pneumatiques qui souvent ont été achetés en Grèce. Et ensuite, on les remet dans ces bateaux et on repousse tous ces migrants vers les côtes turques, c'est ça?
Oui, alors en fait, voilà, il y a plusieurs types de pushback.
Il y a un procédé, quoi, ouais.
Et il y a des procédés différents, mais c'est justement là qu'on voit qu'il y a une réelle organisation, parce que c'est organisé. C'est-à-dire qu'il y a eu différentes remontées à la fois des migrants et des gardes-côtes turcs, qui sont ceux qui principalement dénoncent aujourd'hui ces pushbacks grecs. Donc il y a la première option, c'est les bateaux sont encore en mer, les gardes-côtes grecs les voient, les signalent et les repoussent, ou alors enlèvent les moteurs. Donc ça, c'est des témoignages qui ont été rapportés notamment à des ONG qui surveillent beaucoup ce genre de pratiques. Et on a la deuxième option où effectivement les migrants vont mettre carrément le pied à terre sur une île grecque. Et là, il y a une stratégie de retour qui est organisée avec effectivement des bateaux qui sont de marque grecque, qui est une marque grecque qui existe au Pirée. Et donc, d'après les gardes-côtes turcs, sur 17 000 migrants qu'ils ont récupérés cette année en mer, selon eux, il y aurait 30 à 40% qui seraient des refoulés justement depuis la Grèce.
Mais est-ce que cette pratique-là, Elisa Périgueur, j'entends que ça n'a pas l'air marginal, les chiffres que vous annoncez, 30-40%, c'est pas marginal, mais est-ce que on a des preuves d'une forme d'institutionnalisation de cette pratique du refoulement?
Alors, tout le souci, c'est que c'est une pratique de l'ombre, c'est une frontière maritime qui est très longue, et c'est effectivement avoir des preuves de flagrant délit. Ce que disent les gardes-côtes turcs, c'est que c'est très compliqué. Et donc, les preuves qu'on accumule aujourd'hui, ça va être des témoignages de migrants, donc ça, c'est depuis très longtemps, les témoignages de migrants avec des géolocalisations de portables qui vont être géolocalisés dans les eaux turques, puis après, on va retrouver les migrants dans les eaux grecques. Non, c'est l'inverse. Mais voilà, on a des preuves, on a des vidéos, on a des photos. Et de plus en plus aussi, il y a des ONG et des locaux, par exemple sur des îles comme Lesbos, qui est une île frontalière de la Turquie, qui rapportent en fait ce genre d'histoire. Mmh. Et on a aussi des organismes, par exemple, comme le HCR, qui émet des doutes, ce qui est très important parce que c'est un organisme très reconnu, c'est un programme international, qui explique que eux, par exemple, ils ont déjà entendu des histoires, donc ils ont des coups de fil de migrants en détresse qui sont dans les eaux grecques et ils signalent la présence de ces migrants aux autorités grecques et après on n'a plus du tout aucune trace de ces migrants sur les îles grecques, donc on ne sait pas où ils sont. Et toute cette zone grise, en fait, c'est depuis quelques mois, il y a toutes ces petits indices qui s'accumulent, en fait, et qui montrent qu'il y a un problème, en tout cas, ce qui a donné lieu à diverses enquêtes et reportages assez fouillés avec des preuves à l'appui.
Mais en tout cas, c'est pas assumé du côté des autorités grecques. Vous avez interrogé le porte-parole du corps des gardes-côtes grecs. On n'assume pas cette pratique du refoulement, du pushback.
Non, bien sûr. Ouais. Alors eux vont dire que eux nient totalement la pratique du pushback. Par contre, ce qu'ils me disent, et effectivement, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs mois, c'est qu'ils intensifient leur surveillance de la frontière avec la Turquie. Il faut savoir que les deux pays sont assez en froid sur divers dossiers, et donc eux, ils disent qu'ils intensifient totalement cette surveillance. Ils construisent des murs, par exemple, ils ont annoncé la construction d'un nouveau mur à la frontière terrestre en octobre dernier, et donc il y a cette volonté qui est par contre complètement affichée de dire on ne veut plus que les migrants rentrent illégalement en Grèce. Et ça c'est totalement assumé. En revanche, le pushback, comme c'est une pratique totalement illégale, effectivement ils vont nier, et eux ils vont argumenter en accusant la Turquie de propager des rumeurs à ce sujet-là, de dire que les gardes-côtes turcs eux les accusent alors qu'ils n'ont pas de preuves. Mais c'est quelque chose effectivement qui est pour l'instant, évidemment, c'est nié du côté des autorités grecques.
Oui, parce que tout cela s'inscrit évidemment dans des tensions extrêmement vives entre la Grèce et la Turquie. On va d'ailleurs y revenir. Mais c'est les gardes-côtes grecs, d'accord, mais visiblement, Frontex, l'Agence européenne de contrôle des frontières, alors ne pratique pas cela, mais en tout cas peut-être en aurait connaissance. Peut-être même l'aurait-elle caché. Il y a une enquête qui a été publiée en octobre par Der Spiegel qui révélait que des navires de Frontex étaient présents sur ce type d'opération à au moins 6 reprises entre avril et octobre. Si Frontex a connaissance de ces opérations de refoulement, qui met quand même en péril la vie évidemment de ces migrants, qui est par ailleurs tout à fait contraire au droit de la mer, tout à fait contraire au droit international, c'est des faits extrêmement graves. Que répond Frontex à ces accusations et plus largement les institutions européennes ?
Alors Frontex, ils sont effectivement dans une position très compliquée parce qu'ils sont sur la frontière depuis 2004, on a créé cette agence, donc ces gardes-côtes, ils sont censés surveiller et sauver les migrants qui sont dans les eaux grecques au même titre que les gardes-côtes grecs. Et effectivement, ils ont été obligés de répondre parce qu'effectivement cette enquête du Der Spiegel a été très révélatrice. Et effectivement, moi j'ai déjà entendu ça en fait sur les îles notamment, qui sont pas des grandes îles en Grèce où on sait quand même un petit peu ce qui se passe. Là-bas, il y a les gens ont connaissance de certains événements. Beaucoup de gens disent Frontex ne peut pas ne pas savoir. Et en fait, effectivement, Frontex n'organise pas les refoulements, mais il y a ce doute sur le fait de savoir si est-ce qu'ils savent oui ou non si les refoulements sont organisés par les gardes-côtes grecs. Et pour l'instant, ils se défendent en disant nous, on n'organise pas de pushback. Mais ils ne disent pas s'ils savent ou pas qu'il y a des pushbacks en fait. Mais pour l'instant, il y a une enquête en interne qui est en train d'être menée. Le patron de Frontex a redit, parce que maintenant il y a une communication énorme pour qu'il n'y ait pas de confusion, on ne refoule pas les migrants. Mais le problème en réalité, c'est que cette pratique européenne cette pratique grecque qu'on dénonce, a priori, on voit qu'elle apparaît dans d'autres pays aussi, c'est-à-dire ces pratiques de pushback, on en entend parler aussi en Bulgarie, en Croatie, et il y a beaucoup de remontées, notamment cette année 2020, et Frontex, c'est quand même l'institution européenne qui est censée superviser tout ça, donc effectivement, elle doit absolument apporter des éclaircissements là-dessus, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Revenons à l'instant, si vous voulez bien, Elisa Périgueur, sur les tensions entre la Grèce et la Turquie. Il y a eu un moment très très difficile entre les deux pays, c'était mars dernier, quand Erdogan a annoncé l'ouverture des frontières turques avec la Grèce après cette offensive sur l'enclave syrienne d'Idlib. C'est une annonce qui avait poussé des milliers de réfugiés à partir vers la Grèce, qui avait eu d'ailleurs un effet dévastateur sur les côtes grecques, parce qu'à l'arrivée, il y avait des groupes extrémistes, des groupes d'extrême droite qui les attendaient. Vous racontez ça dans un de vos papiers, notamment sur l'île de Lesbos, par exemple. L'arrivée des embarcations s'était fait vraiment sous les huées. Il y avait des humanitaires qui ont été pris à partie, des journalistes qui ont été coursés et molestés. On avait mesuré à ce moment-là les tensions provoquées par cette annonce d'Erdogan. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que les choses sont un tout petit peu apaisées? Ou c'est toujours la même chose, voire pire, et ce chantage aux migrants est toujours un levier utilisé par Erdogan?
Alors oui, ça c'est sûr que c'est un levier utilisé par Erdogan et puis aussi l'Europe. Enfin, de toute façon, on a cette question des migrants a toujours été très complexe parce que c'est un argument entre les deux entités, c'est-à-dire la Turquie et l'Europe, et la Grèce au milieu est effectivement en première ligne et dans une zone de tension. Et on peut pas dire que non, les tensions se soient apaisées. Au contraire, c'est-à-dire que mars, ça a été, je dirais, une étape en tout cas, parce que les pays ont toujours été en froid. Ils ont une histoire commune très très complexe, qui remonte complètement à l'Empire ottoman. Mais depuis mars, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que cet épisode de tension qui est justement lié au phénomène migratoire a permis à la Grèce de justifier le fait qu'elle barricadait encore plus ses frontières et de fermer encore plus sa frontière avec la Turquie. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils construisent un mur dans le nord de la Grèce de 27 kilomètres. Mais ils vont aussi installer des caméras, ils vont renforcer leurs effectifs militaires à la frontière. Et donc, on a cette tension autour des migrants. Et on a une autre question qui s'ajoute à tout ça, c'est la tension liée aux hydrocarbures qui a fait beaucoup de bruit ces derniers mois.
Ouais, dont on avait beaucoup parlé cet été. Cette question du mur, là, c'est pas la première fois que la Grèce construit un mur. Il y avait eu, au début des années 2010, l'érection d'un...
2012, oui.
2012, voilà, d'un grand mur anti-migrant, je mets des guillemets, dans cette région d'Evros, une dizaine ou une douzaine de kilomètres. Ça avait fonctionné?
Alors oui, il est pas si grand que ça. Oui, voilà, 12 kilomètres sur une frontière qui en fait 200 kilomètres, mais c'est très symbolique. Et effectivement, ça a été l'un des premiers pays d'Europe à ériger un mur anti-migrants, parce que c'est vraiment ça le but de ce mur. Il est effectivement situé dans une zone militaire très difficile d'accès parce qu'il faut des autorisations. Donc effectivement, sur ce point de passage, il n'y a plus personne qui passe. Mais justement, leur idée aujourd'hui, c'est de prolonger ce mur. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils construisent un nouveau mur, c'est le prolongement de ce mur-là. Dans l'idée que cette frontière devienne totalement infranchissable. Et en fait, ça dénote toute la politique de ce gouvernement qui est de droite Nouvelle Démocratie, qui déjà à l'époque était en faveur de ce mur de 12 kilomètres. Il y a toujours eu cette volonté de freiner les flux migratoires à la frontière, que ce soit terrestre ou maritime. Et par tous les moyens, ils essayent de bloquer ces flux humains, mais ce qui est très compliqué
Surtout du symbole, parce que comme vous le dites, ça va pas empêcher les migrants de passer. D'abord, il y a d'autres routes qui se créent, il suffit de contourner. Et c'est intéressant. On va revenir évidemment sur ce gouvernement qui a remplacé celui d'Alexis Tsipras. Mais il y a quelques mois, c'est pareil, il y a une autre annonce d'un mur, en tout cas un système de protection flottant, c'est-à-dire une construction en pleine mer censée empêcher les bateaux d'arriver. C'est exactement la même chose. Là, je crois que c'est quelques kilomètres, là 3 kilomètres, c'est pareil. On est vraiment dans l'ordre du symbole. C'est de la pure communication.
Exactement.
On sait même pas s'il va être mis en place.
Alors voilà,
ce mur,
on sait pas. Ils l'ont acheté. Il y a eu des rumeurs comme quoi finalement ça ne se fera pas. Moi, j'ai pas réussi à voir. J'ai contacté les autorités pour savoir où ça en était. En tout cas, oui, ils ont dépensé pour mettre une barrière flottante, ce qui avait suscité énormément d'indignation, évidemment, chez les locaux, les pêcheurs à Lesbos, qui disaient mais qu'est-ce que ça va être? Enfin, c'est vraiment, c'est anecdotique. Et puis, c'est vraiment de l'ordre du symbole. pour aussi provoquer la Turquie. Je pense qu'il y a aussi cette idée de dire à la Turquie, regardez, surveillez aussi les départs de vos côtes. Nous, on ne veut pas que les migrants arrivent. Mais effectivement, c'est de l'ordre du symbole, ça ne marche pas. On sait très bien que c'est pas du tout une solution.
Oui, et puis c'est aussi pour répondre à une frange de l'opinion grecque qui est, elle, réellement préoccupée hein, par l'arrivée de ces migrants. C'est aussi ça. Et qui d'ailleurs est de plus en plus importante, à tel point que, effectivement, on a depuis maintenant un peu plus d'un an un nouveau gouvernement conservateur dirigé par Kyriakos Mitsotakis, qui a pris la suite d'Alexis Tsipras, membre de Nouvelle Démocratie, donc un parti conservateur. En quoi est-ce que cette arrivée au pouvoir de Mitsotakis a changé la politique migratoire du pays?
Bah, de toute façon, il s'était vraiment en rupture avec la gauche Syriza. Donc, c'était sur Syriza. Donc, pendant 4 ans, eux, ils ont essayé de faire une politique d'ouverture, c'est-à-dire ils ont ouvert les camps qui étaient fermés. Après, ils ont eu à gérer un énorme flux à partir de 2015, ce qui effectivement n'a pas été une réussite. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu une partie de l'opinion grecque qui effectivement a peur de et se sent très abandonnée à la fois par les autorités grecques et par l'Union européenne avec ce phénomène migratoire, ce qui est le cas à Lesbos par exemple, où effectivement pendant plusieurs mois on a eu un camp de migrants avec plus de 20 000 personnes qui d'ailleurs est toujours là en fait, mais qui a brûlé et qui a changé d'endroit. Mais on a une frange de la population qui effectivement, malgré le fait qu'elle était très solidaire au départ, se dit bon là ça fait quand même 5 ans, on fait beaucoup de choses, et donc il y a beaucoup de gens qui se sont tournés effectivement pour la Nouvelle Démocratie en 2019. Et sur la question de l'immigration, c'était très clair dès le départ qu'ils voulaient réformer le droit d'asile en Grèce. Donc ils ont fait une réforme qui a été votée au Parlement, qui est majoritairement à droite en novembre, et qui a énormément de conséquences effectivement sur l'asile.
Lesquelles ?
Par exemple, déjà les camps vont être fermés. On peut renvoyer un migrant qui a été débouté 2 fois alors qu'avant c'était 3 fois. On a aussi des procédures qui seront plus rapides mais plus expéditives. On pourra renvoyer plus facilement entre guillemets. Enfin, c'est le but du gouvernement. Mais il faut aussi savoir que tout ça part aussi d'une politique. Il y a une vraie saturation du système migratoire en Grèce.
Vous dites qu'il est totalement congestionné, quoi.
Bah, c'est vrai, et il n'y a pas assez d'effectifs. On sait que la fonction publique grecque aussi a un peu de moyens, donc il y a 80 000 demandes d'asile, et il y a aussi un problème. Il y a aussi beaucoup de migrants qui, par exemple, vont payer le prix, ils vont rester bloqués dans des camps le temps du traitement de leur demande d'asile, ce qui parfois peut durer des années, ce qui est quand même très 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 grave. C'est-à-dire on laisse ce problème aux confins de l'Europe, mais on a tout un pan de personnes qui souffrent beaucoup de cette politique, et donc ils ont voulu réformer cette politique effectivement à droite, en assumant le fait qu'ils voulaient plutôt fermer les frontières et qu'ils voulaient réguler beaucoup plus cette immigration venant de Turquie.
Et au-delà, Elisa Périgueur, de cette question purement migratoire, vous dites que la crise du Covid, plus largement, a été aussi le prétexte pour faire passer un certain nombre de lois liberticides, et pas seulement dans le domaine migratoire. Il y a effectivement des libertés qui ont été progressivement reniées, qui sont menacées par la réponse de ce gouvernement conservateur. Vous nous en donnez quelques illustrations ?
Par exemple, on a eu une loi pour encadrer les manifestations qui est passée en juillet. Donc on n'était plus confinés à ce moment-là, c'est sûr, mais bon, on savait que c'était un espèce de déconfinement partiel. Mais effectivement, la loi sur l'encadrement des manifestations en Grèce, elle a été très symbolique pour la gauche, parce que il y a une opposition à gauche qui aujourd'hui a très peur de plus pouvoir s'exprimer dans la rue, notamment par rapport à ce qui va arriver en 2021, parce qu'on sait qu'il y aura des mesures d'austérité, on sait que les gens vont vouloir descendre et aller protester contre ce gouvernement. Et effectivement, à gauche, il y a une vraie inquiétude donc par rapport à cette restriction des manifestations. C'est-à-dire que maintenant, ce sera comme en France, en fait, mais il faudra déclarer la manifestation. Il faudra avertir, en quelque sorte, la préfecture. Mais les organisateurs pourront porter la responsabilité de tous les dommages qui auront été provoqués dans la manifestation. Et c'est le point noir qui faisait un peu peur. Et donc, cette loi, elle est passée en juillet. Et pour l'instant, l'instant, effectivement, on voit moins les conséquences que ça peut avoir avec la crise du Covid puisqu'on est confiné. Mais c'est quelque chose qui fait peur à la gauche et on sent qu'il y a vraiment cette idée que la liberté d'expression peut être de plus en plus restreinte. Et on a aussi, à l'image de la France, on remarque aussi qu'il y a vraiment une volonté de renflouer le système, enfin l'institution policière. C'est-à-dire depuis que Mitsotakis est arrivé au pouvoir, il a renforcé énormément les effectifs de police, notamment à Athènes. Et ça, c'est très visible. On est vraiment dans une ville où il y a des policiers qui patrouillent en permanence. Mmh. Et là, y compris pendant le confinement, il y a eu encore des recrutements de policiers.
Merci beaucoup, Elisa Périgueur, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes correspondante à Athènes pour Mediapart et qu'on peut vous lire justement sur le site de Mediapart. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Στην Αθήνα στον Πειραιά κάναμε παρέα, βρε. Στην Αθήνα στον Πειραιά κάναμε παρέα. Κάναμε παρέα. Αθήνα Πειραιά. Κάναμε παρέα.
Allez, on va tourner la page prendre la direction de l'Inde. Narendra Modi à l'épreuve de la colère paysanne, c'est notre sujet ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque depuis plusieurs semaines, la colère monte dans le monde rural indien et la tension s'est accrue avec cette marche de paysans qui, depuis plusieurs jours, ont pris la route en direction de New Delhi pour dénoncer les réformes décidées par le gouvernement.
Chacun de nos tracteurs est chargé avec des provisions pour 4 mois. Le blé a été semé et les agriculteurs du Punjab et de l'Haryana sont maintenant tous libres. Tant que le gouvernement n'aura pas annulé ces nouvelles lois, aucun d'entre nous n'y retournera.
On est venu ici pour faire en sorte que le gouvernement retire ses lois. Notre mouvement de protestation se déroule depuis 2 mois dans l'Haryana et le Punjab, mais le gouvernement n'y prête pas attention. On a décidé de venir à Delhi pour faire pression sur le gouvernement national afin qu'il retire ses lois.
Alors quelles sont justement ces réformes qui ont poussé les paysans sur les routes? En quoi posent-elles problème? Quel risque politique pour Modi aussi dans ce pays touché par le Covid et où le confinement a provoqué la plus grave crise économique de l'histoire du pays? Et que nous dit cette colère aussi d'une forme de dégradation de la démocratie indienne tenue d'une main de fer par le nationalisme hindouiste de Narendra Modi? Pour évoquer ces questions, on a invité ce matin d'abord Catherine Brosse, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences à l'université Gustave Eiffel et chercheuse à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Avec nous également Christophe Jaffrelot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po et au CNRS. Comme tous les vendredis, nos partenaires du monde, c'est Marc Semo qui est avec nous. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors on va commencer avec vous comme on le fait chaque vendredi. Marc, depuis plusieurs jours, on a des milliers d'agriculteurs qui menacent de bloquer Delhi. On a des violences qui ont éclaté avec les forces de l'ordre. Et en Inde, faut toujours prêter attention à la colère des agriculteurs. C'est à peu près quand même la moitié de la population. D'autant qu'on est dans un pays qui a connu un mouvement de protestation extrêmement fort il y a quelques mois, on s'en souvient, autour de cette loi sur la naturalisation qui discriminait les musulmans. Et puis on a cette crise du Covid qui, au-delà du bilan sanitaire, sur lequel on a du mal à avoir des chiffres clairs, a provoqué, je le disais, un effondrement de l'économie. On est dans une récession historique, donc on a un contexte économique et social qui est particulièrement inflammable, Marc.
Absolument, et ces manifestations, leur blocage, nous rappellent aussi, surtout même, à quel point la démocratie indienne est fragile et malade. Nos ministres de passage à Delhi le rappellent à chaque fois, l'Inde est la plus grande démocratie du monde, à la différence de la Chine, son rival en Asie, le second pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d'habitants, un parlement, de vraies élections, et dispose de toutes les institutions d'un état de droit sur le modèle britannique. Mais notre potentiel allié pour contrebalancer la puissance chinoise est en train de devenir, désormais, une démocratie illibérale avec l'arrivée au pouvoir en 2014 des nationalistes hindous de Narendra Modi. Et à l'instar d'autres leaders, tel Erdogan en Turquie ou Orban en Hongrie, il concentre toujours plus de pouvoir entre ses mains. Et derrière le paravent d'élections encore libres, on écrase les libertés. La liste est longue, la reprise en main au Cachemire, la discrimination contre les musulmans qui l'hiver dernier ont suscité d'immenses manifestations pour la défense de la laïcité, la montée en puissance du fanatisme hindou. Donc on a un pouvoir qui se montre toujours plus répressif et qui mène une véritable chasse aux sorcières contre les organisations de défense des droits de l'homme, selon les mots même du directeur d'Amnesty en Inde, qui en septembre a fermé ses bureaux dans la capitale et à Bangalore.
Alors, on a le cadre qui est bien posé maintenant. Catherine Bras, je me tourne vers vous parce que vous êtes économiste et je voudrais moi peut-être qu'on commence avec ce contexte économique qui est extrêmement mauvais. On a eu un premier plongeon de 24% du PIB sur la période avril-juin, une croissance qui s'est encore contractée sur juillet-septembre. C'est ce que nous disent les estimations de la Banque centrale. On nous dit aussi que c'est une première dans l'histoire du pays depuis l'indépendance. Est-ce que vous pensez que cette mauvaise conjoncture économique offre un terrain fertile pour un embrasement social généralisé? Jusqu'où cette colère qui nous vient des campagnes pourrait s'étendre, Catherine Bros?
Oui, alors effectivement, vous soulignez là, l'économie de l'Inde a plongé, mais c'est pas un phénomène qui est tellement nouveau en fait, parce qu'il y avait déjà eu des signaux rouges en 2019, puisqu'il y avait eu un ralentissement très fort, très net, et qui était surtout très peu attendu en fait. Parce qu'au troisième trimestre 2019, là, le taux de croissance était passé en dessous de 5%. Or, on sait, là, l'Inde est un peu à la croisée des chemins parce on sait qu'il y a énormément de nouveaux entrants sur le marché du travail, puisqu'elle termine sa transition démographique. Donc, il y a à peu près tous les ans 10 millions de nouveaux entrants sur le marché du travail. Donc, en fait, l'Inde a besoin d'une croissance, on estime, à peu près au moins de 8% pour absorber ces nouveaux entrants. Donc, à moins de 5%, ça veut dire plus de chômage, en fait. Et effectivement, c'est ce qu'on a vu à partir de 2019. On a vu le chômage augmenter et être à son plus haut niveau depuis 45 ans, puisqu'il est à peu près à 6%. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais il faut voir aussi que les chiffres sont biaisés parce que vous avez beaucoup de secteurs informels. Et ce chômage, il est particulièrement élevé chez les jeunes. Donc, en fait, avant même la crise du Covid, il y avait une situation qui était quand même très compliquée du point de vue économique et qui mettait un peu le gouvernement sur la sellette.
Et qui pourtant ne l'empêche pas de remporter des élections. On reviendra tout à l'heure sur les résultats de l'élection 2019, largement remportée par le BJP. Christophe Jaffrelot, peut-être, première intervention sur ce contexte général. Jusqu'où est-ce qu'il vous semble qu'un embrasement généralisé est à craindre? Et puis, pour poursuivre un tout petit peu et se concentrer sur Narendra Modi et son exercice du pouvoir, parce qu'on se souvient que l'année dernière, cette loi sur la citoyenneté avait déjà suscité une colère immense de la communauté musulmane. On avait eu de très importantes violences policières. Là, on a un nouveau différent avec le monde agricole cette fois, avec le refus de dialoguer du côté du gouvernement. On a le sentiment qu'il y a chez Modi peut-être une volonté de jouer la carte justement du rapport de force et de la confrontation. On a le sentiment que on est plus dans une logique d'opposition que dans une logique de recherche du consensus, Christophe Jaffrelot.
Oui, une logique de polarisation, on dirait, hein, qui est d'ailleurs propre à de très nombreux populistes, parce que Trump n'a rien essayé d'autre, Netanyahou n'a rien essayé d'autre, Bolsonaro, la liste est longue. Polariser pour réussir à solidariser, cimenter une majorité relative derrière soi contre les autres. Alors, l'autre, jusqu'à présent, c'était le musulman, et la majorité hindoue était considérable, puisqu'il y a 80% d'hindous en Inde. Là, on est sur un autre sujet et la stratégie de polarisation est peut-être quand même beaucoup plus risquée. Polariser les urbains contre les ruraux, ça veut dire quand même, cette fois-ci, jouer sur une minorité contre une majorité, ce qui en politique est tout de même particulièrement délicat. Et c'est pour ça que je crois que Modi va sans doute lâcher du lest, faire des concessions. Car l'enjeu est considérable. On l'a dit, le contexte économique est catastrophique, puisque pour la première fois depuis qu'on a des statistiques en la matière, on voit le pourcentage des gens vivant sous le seuil de pauvreté augmenter. Et ça, comme le disait Catherine Gross, c'était quelque chose que l'on constatait avant la crise actuelle provoqué par le Covid. Donc on imagine qu'aujourd'hui, la paupérisation atteint des sommets. Donc, dans ce contexte, avec des mouvements sociaux qui peuvent se coaliser, et c'est le vrai point d'interrogation sur lequel je vais revenir tout de suite, il va avoir sans doute tendance à trouver la voie de sortie par le haut. Sauf qu'il ne l'a jamais fait. Et ça, c'est très caractéristique. Narendra Modi n'a jamais cédé à personne. D'abord pas à son parti, pas à son organisation. Passer en force, c'est son mode de fonctionnement. Les lois qui sont aujourd'hui incriminées sont passées en force. Il craignait de ne pas avoir la majorité à la Chambre haute, donc il n'y a pas eu de vote. C'est spectaculaire, c'est typique des attaques contre le parlementarisme. Mais là, je crois qu'effectivement, l'enjeu est considérable. On voit les mouvements paysans se solidariser. Une sorte de convergence des luttes, en quelque sorte, s'opérer à travers le nord de l'Inde. C'est bien sûr le Pendjab, l'épicentre, et l'Haryana, mais ça fait tache d'huile. Et donc, il va sans doute y avoir l'ouverture de quelques négociations. Ce mouvement est très populaire, il est totalement pacifique. Les paysans qui sont dans la rue ou dans les champs ou sur les routes viennent nourrir les policiers qui leur tirent dessus. Et ça, ça renvoie à toute l'histoire du mouvement de protestation non violente, dont le Pendjab a été un des épicentres à l'époque du Mahatma Gandhi. Et c'est un écho qu'il ne faut pas sous-estimer. Et dernier point pour finir sur ce sujet, un des alliés du BJP, la Khalidal, a quitté la coalition gouvernementale pour bien manifester que face à un sujet comme celui-ci, il ne pouvait pas trahir les paysans.
Le BJP étant le parti de Narendra Modi. Catherine Brosse, est-ce que vous rejoignez Christophe Jaffrelot sur cette idée qu'il n'y aura pas de concession du côté de Modi et que l'on risque effectivement d'aller vers un blocage très fort, sachant que c'est un enjeu essentiel pour les agriculteurs. Si Modi ne lâche pas, on peut aussi penser que les agriculteurs ne vont pas lâcher parce qu'il y a un véritable enjeu. Et il va falloir que vous nous éclairiez justement, Catherine Brosse, sur cet enjeu, sur ces réformes qui ont été passées en septembre sur les marchés agricoles, parce qu'il faut comprendre ce qui pose problème aux agriculteurs, Catherine Brosse.
Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à votre première question, effectivement, c'est assez peu probable que Modi lâche. Et puis surtout, je voudrais tempérer un peu les choses. Effectivement, en termes de chiffres, c'est plus de la moitié de la population active, donc c'est un gros risque qu'il prend, c'est vrai. Mais il y a quand même un consensus, et ça depuis très longtemps en Inde, qu'il faut réformer le secteur agricole, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, le secteur, et là, ça répond à votre deuxième question, le secteur agricole en Inde a été très est vu comme étant très sclérosé parce qu'il y a eu un interventionnisme très fort de l'État qui a été mis en place dans les années 50-60, donc à l'époque où l'économie de l'Inde était semi-dirigée, hein. Et semi-planifié, et donc en fait dans le secteur agricole il y a un interventionnisme très fort que Modi veut essayer de supprimer, parce qu'en fait, pour expliquer un peu la nature de la réforme sur dans l'agriculture, les agriculteurs ne sont pas libres de vendre leur production à qui ils veulent, ils doivent la revendre à des ça s'appelle des APMC, c'est-à-dire des revendeurs agréés par l'État, donc l'État et pour beaucoup l'État lui-même. Et donc là, la réforme introduite par Modi consiste à rendre les agriculteurs libres de vendre à qui ils veulent. Ce qui, a priori, est plutôt... on voit pas très bien en quoi ça peut poser problème aux agriculteurs.
Sauf qu'ils disent, les agriculteurs, que ça va favoriser les grosses entreprises.
Alors, c'est pas ça tellement le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est qu'en fait, les prix... l'État rachète, pour certaines denrées, notamment le blé et le riz, rachète aux agriculteurs à des prix garantis. Et c'est des prix qui sont au-dessus des prix du marché. Et donc, en fait, c'est ça que les agriculteurs ont peur de voir disparaître, parce que, en fait, ce que ça permet de faire pour les agriculteurs, c'est de vendre plus cher que le prix du marché et de continuer aussi à écouler un excès d'offres par rapport à la demande sur ces biens agricoles. Et donc, en fait, c'est ça qui inquiète principalement les agriculteurs. C'est pas tellement cette réforme en soi, c'est de voir saboter, en fait, ce système très interventionniste de l'État, mais qui est aussi reconnu par beaucoup d'observateurs et qui est reconnu comme étant responsable du fait qu'en Inde, vous avez une agriculture qui est extrêmement peu productive, qui est très intensive en main-d'œuvre et qui contribue à 15% du PIB, mais qui emploie la moitié de la population active. Donc on voit bien que c'est très peu productif et qu'il y a des sources de croissance à aller chercher de ce côté-là. Avec des risques, évidemment, qui est que si vous augmentez la productivité dans le secteur agricole, vous libérez de la main-d'œuvre, qui là encore doit être employée quelque part. Et la croissance indienne sur les dernières années a pas du tout été créatrice d'emplois. Elle en a même, en fait, détruit. Donc, c'est un peu à double tranchant, en fait, cette réforme. À la fois, ça permet de booster le secteur agricole qui est de la vie de tous, hein, de tous les bords politiques qui doit être réformé, mais qui est passé en force, ça c'est vrai. et qui va aussi avoir des conséquences sociales importantes, parce que ce système d'intervention de l'État, il garantit aussi l'accès pour les foyers les plus pauvres, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, à des denrées agricoles à prix aussi subventionnés, en fait.
Christophe Jaffrelot, sur la réforme elle-même, sur ses effets économiques et sociaux, et puis de façon plus générale ensuite, on va essayer de regarder ce qui a été fait depuis l'arrivée de Modi en la matière, parce qu'il faut se souvenir que Modi a fait beaucoup de promesses aux paysans, qu'il a régulièrement répété qu'il s'engageait à doubler leurs revenus d'ici 2022. Ça serait intéressant de regarder où on en est aujourd'hui et si réellement il a permis d'améliorer leur situation, parce que visiblement, de ce que l'on constate là, c'est pas vraiment ce qu'on dit aujourd'hui, Christophe Jaffrelot.
Effectivement, alors les syndicats de paysans font d'abord le bilan des initiatives qui ont déjà été prises dans certains États en termes de libéralisation, parce que certains États, le Bihar par exemple, a déjà tenté de mettre fin à ce régime administré qui avait été mis en place par Nehru, en vérité. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les paysans y ont perdu. Ils n'ont pas conservé les revenus qu'ils retiraient du système antérieur, grâce à ce qu'on appelle les prix de soutien agricole, hein, minimum price suppliers, les MPS. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. La libéralisation, en l'occurrence, tout en permettant aux paysans de vendre leurs produits ailleurs, à d'autres, s'est traduite en vérité par une baisse de revenus. Hein, c'est un petit peu l'histoire, comme pour citer Karl Marx, du renard libre dans le poulailler libre. Parce que ces paysans, les plus petits, notamment au Bihar, où ils sont pas très très riches, n'ont pas eu la possibilité de se déplacer pour aller sur des marchés qui soient lointains. Ils ont dû céder leurs biens aux compagnies et aux marchands, aux commerçants qui se présentaient à eux. Et en fait, le rapport de force leur a été défavorable. C'est d'ailleurs vrai pour d'autres secteurs et au Punjab, ils ont eu l'expérience de la canne à sucre, hein, les sugar mills, les fabricants de sucre de mélasse. Non seulement ont payé moins le prix que le prix que l'État offrait jusqu'à présent, mais en plus ont eu des arriérés de paiement très longs. Et le rapport de force n'était pas en faveur des paysans. Donc c'est le premier point très important, c'est ce sentiment qu'en fait l'État se retire et des grandes compagnies de l'agro-business prendre le relais. Il n'est pas étonnant qu'au Punjab, on se soit attaqué aux pompes à essence de Ambani et de Reliance, parce qu'on sait que Reliance, la plus grande capitalisation boursière indienne, vise le secteur agricole et a commencé à y investir énormément. Et le deuxième point très important, c'est que ceux qui sont pour une réforme du secteur agricole s'attaquent beaucoup moins à la façon dont on achète son produit aux paysans qu'à la structure aujourd'hui très problématique de la tenure foncière. 86% des paysans cultivent moins de 2 hectares. Alors, vous imaginez.
Il y a un problème de fragmentation, de parcellisation des surfaces qui est lié au système d'héritage qui fait que les surfaces deviennent de plus en plus petites à mesure qu'elles sont transmises de génération en génération. Et ça, c'est un problème essentiel.
Tout à fait. Ouais. Et donc, ce que certains disent, c'est qu'il n'est pas même envisageable que les petits paysans aient le rapport des forces qui permettent, ne serait-ce que de se déplacer pour vendre leurs produits aux mieux offrants. Et puis, dernier point de ceux qui s'inquiètent de la situation de la culture indienne, qui, par parenthèse, n'est pas encore en mesure d'assurer une autosuffisance réelle. Hein, et on voit une sous-alimentation croissante des Indiens, notamment des ruraux, qui reflète un problème de production et pas seulement de productivité. Oui, dernier problème donc, la baisse des investissements de l'État, qui depuis la libéralisation de 91, hein, ça ne date pas de Modi, hein, a retiré énormément de ces moyens qu'il consacrait à notamment l'irrigation. L'eau l'eau devient un énorme problème. Mmh. Alors, c'est lié au fait que les canaux ne sont pas entretenus, il n'y a pas l'investissement public qu'il faudrait pour cela, mais c'est lié aussi au fait que les nappes phréatiques baissent considérablement, notamment dans les régions où l'on fait beaucoup de canne à sucre, et c'est notamment le cas du Punjab. Mmh. Et donc là, on est sur une remise à plat du système qui ne passe pas par la façon dont les produits sont vendus, mais passe par des rythmes de structure où l'État a tout son rôle à jouer. Ouais. Et c'est bien ce que craignent les paysans, c'est que l'État se désinvestisse.
Ouais, problème d'irrigation, problème foncier, problème aussi de l'endettement des paysans, on n'en a pas parlé, mais il y a une montée en puissance et des nombres de suicides chez les paysans, et en particulier à cause des niveaux d'endettement qui pèsent sur leurs épaules et qui deviennent de plus en plus insoutenables. Et si on quitte un tout petit peu, Catherine Brosse, le monde paysans à proprement parler, et qu'on regarde un peu le bilan économique de Narendra Modi. Parce que au-delà de la conjoncture que j'évoquais tout à l'heure, Catherine Brosse, qui n'est évidemment pas bonne du tout à cause de son confinement qui a provoqué l'effondrement, un effondrement historique de l'économie, beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que le bilan économique de Modi n'a pas été très bon, peut-être en tout cas pas à la hauteur des attentes. C'est ce qu'on entendait beaucoup chez les observateurs quand on a eu la campagne pour les élections de 2019. Et pourtant, justement, ces élections de 2019, elles avaient été remportées et largement par le BJP, plus de 45% des voix contre 27% pour la coalition d'opposition emmenée par son chef de file Rahul Gandhi. Alors, première question, est-ce que vous êtes d'accord, Catherine Brosse, pour dire qu'au fond, le bilan économique de Modi, qui a réformé l'économie à grands coups de libéralisation, n'est pas aussi satisfaisant qu'on aurait pu l'espérer? Et comment comprendre ce paradoxe qui est que malgré ce bilan tout à fait maigre, voire pas très bon, eh bien, il arrive à gagner des élections et il arrive à jouir d'une popularité encore extrêmement forte, Catherine Brosse?
Oui, alors sur le bilan économique, c'est vrai qu'il est pas bon, ça c'est certain. En plus, il y a eu des idées quand même franchement saugrenues avec la démonétisation dans le premier mandat Modi, qui a été un gros choc pour l'économie indienne. Donc il y a été le retrait en fait du jour au lendemain du cours légal des coupures les plus utilisées. Et donc il y a été un gros choc. Et alors c'est assez fascinant de voir que cette démonétisation qui a été tout sauf efficace, qui était même très nuisible, a pas du tout entamé la popularité de Modi. Parce qu'en fait, je pense que la popularité de Modi, elle repose pas tellement sur des éléments concrets et de réflexion, elle repose sur l'image qu'il projette et sur les émotions. Et en fait, Modi, est dans cette réforme aussi agricole, mais aussi dans la réforme GST, enfin dans toutes les réformes d'ordre économique qu'il a pu prendre, en fait, ce qu'il essaie de projeter, c'est l'image d'un leader fort qui prend des risques et qui fait quelque chose. Et ça marche bien, en fait. Et que ce quelque chose soit bien ou pas, à la rigueur, c'est même plus vraiment la question. Mmh. Au moins, beaucoup de citoyens indiens se disent, au moins on a quelqu'un qui fait quelque chose. Et je pense que ça explique aussi un peu ce style très brutal pour passer des lois, pour passer un certain nombre de choses, pour décider d'un confinement sans concertation avec les États. Enfin, je veux dire, c'est tout sauf la concertation. Et un autre élément, je pense, qui est important à comprendre dans cette réforme agricole, c'est qu'en fait, ça revient à la reprise en main par le centre de la politique agricole qui était souvent de la compétence des États. Et en supprimant, à terme, ça risque de supprimer donc ces marchés, ça attaque aussi au portefeuille un certain nombre d'États agricoles qui tirent beaucoup de recettes fiscales de cette organisation par l'État du marché des denrées agricoles. Donc, si vous voulez, il y a aussi derrière tout ça, à la fois
des États qui seraient majoritairement tenus par l'opposition, et donc une instrumentalisation politique derrière pour affaiblir justement le camp d'en face.
C'est le cas par exemple du Punjab. Le Punjab tire énormément de recettes fiscales, une recette fiscale conséquente de ces APMC, de ces marchés régulés. Mmh. Et en plus, légalement aussi, c'est la façon pour le centre de dire je décide, vous n'avez plus tellement de politique à mener en réalité.
Ouais, donc une centralisation du pouvoir. Marc Semo et puis ensuite Christophe Jaffrelot. Marc Semo.
Alors, justement, à propos de la centralisation du pouvoir, est-ce qu'il n'y aura pas, justement, vu la faiblesse, somme toute, de ce bilan économique, vu ces nouvelles tensions, nécessairement, de la part de Modi, une espèce de tentation de la surenchère nationaliste et, en même temps, un pouvoir qui risque de devenir de plus en plus autoritaire, un peu selon, justement, la dérive que l'on voit aussi bien dans la Turquie d'Erdogan que dans d'autres régimes similaires?
surenchère nationaliste, Christophe Geoffrelot ?
Oui, et autoritarisme. C'est-à-dire qu'on voit effectivement une transition s'effectuer depuis la réélection de Modi en 2019 du populisme vers l'autoritarisme. Alors, les deux ont partie liée, on le sait. Quand un leader populiste dit « je suis la nation », eh bien, toute opposition est illégitime et est considérée comme antinationale. Donc il y a déjà dans le populisme des graines, des ferments d'autoritarisme. Mais il est certain que en ayant remporté un second mandat, Modi a assuré sa souveraineté, sa suprématie, au détriment d'institutions aussi importantes que le Parlement, et qu'il s'est attaqué, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, hein, aux ONG. Amnesty n'est pas la seule à avoir souffert de ce régime. On est passé d'une trentaine de milliers à une dizaine de milliers d'ONG en Inde. C'est vrai aussi de tous les partis d'opposition qui sont dépecés, empêchés de s'exprimer. Il y a des dizaines de journalistes aussi maintenant en prison en Inde, sous couvert d'ailleurs de lutte contre la pandémie. On considère que s'attaquer à la façon dont l'État gère la crise, c'est irresponsable, et donc les journalistes sont mis au pas. Là, on a tout à fait effectivement une évolution. La question que vous posez, qui est effectivement très importante, c'est pourquoi reste-t-il populaire dans ces conditions? Et il y a effectivement un trait de culture politique. C'est-à-dire qu'on a une culture politique où l'homme fort jouit d'un charisme particulièrement important. Le charisme, comme Max Weber l'explique, ce n'est pas nécessairement celui du Mahatma Gandhi, celui de l'homme quasiment saint, au sens où Gandhi pouvait l'être, sacré. Non, le charisme, c'est ce qui, nous dit Weber, à ce leader qui fait des choses exceptionnelles. Et Modi fait des choses exceptionnelles. Hein. Il a fait la démonétisation, il a attaqué le Pakistan avec son armée, il a supprimé l'autonomie du Cachemire. Waouh ! Voilà un homme qui fait des choses. Et effectivement, elles ne sont pas forcément bonnes. Mais vous avez un trait de caractère, un trait de psychologie, une fascination pour le héros, qui réussit ça. Rappelons-nous Indira Gandhi. Indira Gandhi avait fait l'état d'urgence. Elle avait stérilisé 8 millions d'Indiens. Et elle avait remporté les élections de 1980, quelques années seulement après. Donc là, on est forcément dans de la psychologie collective. Et il faut faire de ce genre de discipline pour comprendre la politique parfois.
Jusqu'où, Christophe Geoffrelot, et puis ensuite je vous donne la parole, Catherine Brosse, jusqu'où justement il peut aller, Narendra Modi? Vous parliez effectivement de cette intervention militaire du côté du Pakistan. On pourrait aussi mentionner les heurts qu'il y a eu cet été entre l'Inde et la Chine dans la région de l'Himalaya. Il y a quand même eu le bilan le plus lourd depuis 1975 dans cette région qui est disputée depuis très longtemps et où les différends rejaillissent très régulièrement. On a eu 20 morts côté indien, côté chinois, ça n'a pas été communiqué, mais au fond, compte tenu de la fragilité intérieure que vous évoquez, est-ce qu'elle risque pas de produire à l'extérieur une forme de brutalité, c'est-à-dire pousser Modi à se montrer d'autant plus fort à l'extérieur envers le Pakistan ou envers la Chine qu'il est faible pour compenser précisément cette fragilité interne, Christophe Geoffrelot?
Alors, ça serait effectivement le modèle Erdogan, hein,
oui, la fuite
en avant dans l'aventure militaire. Oui, on peut pas l'exclure, surtout que les escalades sont parfois difficiles à arrêter. Il y a une corde de rappel quand même dans le cas indien, et c'est ce qu'on voit depuis quelques mois. Face à la Chine, l'Inde a besoin d'alliés. Et c'est depuis longtemps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé le mot d'allié avec l'Inde. Hein. L'Inde non alignée, qui fait en sorte d'être totalement autonome au plan stratégique, cherche des alliés. Comme elle cherchait des alliés en 71, lorsque il avait fallu s'associer à l'URSS contre le Pakistan et les États-Unis à l'époque. Hein. Donc c'est intéressant. On retrouve ce sentiment que l'Inde toute seule va avoir du mal à résister. Le Quad, les États-Unis, le Japon, l'Australie sont devenus des partenaires très forts, voire des alliés. Et là, il y a une corde de rappel, parce que s'il a besoin de l'extérieur, et si cet extérieur est fait de démocratie, alors il est possible que les démocraties qui viennent en aide à l'Inde, est un levier. C'est un test, en tout cas. Et là, notre responsabilité en tant qu'occidentaux doit être assumée pleinement. Pour l'instant, on ne dit rien, et mon « on » recouvre toutes les démocraties occidentales. Il n'y a que le Canada qui parle, en vérité. Il n'y a que Trudeau qui ose dire des choses. Mais c'est la corde de rappel quand même, parce que s'il a besoin à ce point de l'étranger, alors il ne pourra pas aller trop loin dans sa fuite en avant.
Et alors justement, Catherine Brod, sur ce sujet-là, il y a évidemment un pays sur lequel l'Inde mise, et d'ailleurs inversement, c'est les États-Unis, parce qu'on a besoin l'un de l'autre, parce qu'il faut contenir la montée en puissance de la Chine. On en parlait la semaine dernière à ce même micro. On se souvient que Narendra Modi, au départ, n'a pas eu de très bonnes relations forcément avec l'administration américaine, à tel point d'ailleurs qu'il avait été interdit de territoire pendant un moment, et puis quand il est devenu Premier ministre, les choses se sont arrangés. Il est allé à la Maison Blanche, Obama est allé en visite officielle en Inde, même chose du côté de Trump qui est allé aussi et qui visiblement appréciait assez son nationalisme et aussi la fermeté dont il faisait montre s'agissant de l'exercice du pouvoir. Mais avec l'arrivée de Biden, est-ce que précisément on peut attendre des évolutions dans les relations indo-américaines ou précisément la nécessité d'avoir des alliés, comme le disait Christophe Jaffrelot, d'un côté et de l'autre d'ailleurs, fait qu'on n'a pas véritablement de marge de manœuvre et qu'il n'y a pas grand-chose à attendre? Catherine Brosse.
C'est assez difficile d'y répondre parce qu'en fait, le recours aux États-Unis et des États-Unis de Trump faisait beaucoup écho à son opposition à la Chine. Donc à partir du moment où Trump, effectivement, n'était pas dans les meilleurs rapports avec la Chine, ça devenait un peu un allié naturel, j'ai envie de dire, pour l'Inde. Donc tout va dépendre un peu de l'attitude de Biden. Est-ce qu'il va continuer avec avoir des rapports tendus avec la Chine, etc. Mais d'une manière générale, de toute façon, l'Inde reste quand même un partenaire important. C'est un gros marché, donc c'est un peu, on est un peu là à la croisée des chemins, je pense, parce que c'est un gros marché, mais c'est un marché qui va mal. C'est les relations entre l'administration Biden et la Chine, on ne les connaît pas encore très bien, et qui vont avoir aussi des répercussions sur la façon dont l'Inde va se positionner. Donc c'est assez difficile de répondre ce que l'élection de Joe Biden va changer dans les relations indiennes-américaines. Cela dit, il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a une énorme diaspora aux États-Unis indienne, donc il y a quand même des liens naturels qui se font entre les deux pays.
Christophe Jaffrelot, sur ce point.
Effectivement, il est un peu trop tôt pour trancher, mais on peut tout de même anticiper un véritable glissement. Alors non seulement du fait de la personnalité de Biden, mais aussi du fait de celle de Kamala Harris. Parce que vous avez avec Kamala Harris quelqu'un qui a suivi de très près ce qui s'est passé du côté de la des violations des droits de l'homme en Inde, qui s'est prononcé contre, qui a une connaissance assez intime du sujet. N'oublions pas que sa mère était originaire du Tamil Nadu et qu'elle était, comme on dit aux États-Unis, progressiste, ce qu'est aussi Kamala Harris.
Donc il va y avoir un activisme sur le sujet des droits de l'homme, c'est ça que vous voulez nous dire?
Ce sera peut-être un peu fort d'utiliser le mot activisme, mais parce qu'aujourd'hui les droits de l'homme ne suscitent plus guère l'engouement de l'époque Carter, mais quand même, je pense que la vigilance sur le sujet sera beaucoup plus grande. Trump passait absolument tout à Narendra Modi. N'oublions pas qu'il était en visite officielle en février dernier, lorsque l'émeute a eu lieu à Delhi, faisant 55 morts, et qu'il était en train, au contraire, de parler de la grandeur du multiculturalisme indien. Donc, ça sera forcément autre chose. Ça sera forcément différent. Maintenant, la vraie question, mais qui vaut pour les États-Unis comme pour l'Europe, c'est jusqu'où est-on prêt à ignorer ce que l'Inde fait à ses minorités et à ses pauvres, parce qu'on considère qu'elle est incontournable dans notre effort pour contenir la Chine. Tant qu'on aura cette idée qu'il y a toujours pire que l'Inde, c'est le voisin qu'il faut contenir derrière, eh bien, on fera un peu comme ce que le Pakistan a réussi à faire. Enfin, plutôt, ce que les États-Unis ont fait avec le Pakistan, utilisant le Pakistan contre l'URSS et laissant le Pakistan s'enfoncer dans l'autoritarisme à l'époque de Zia dans les années 80. Ça a été évidemment un calcul de très court terme, mais à court terme, on pensait qu'il y avait une priorité. Et là, on est peut-être en train d'assister à une autre forme de pakistanisation de l'Inde. Elle se pakistanise en devenant exclusive en termes religieux, en termes ethno-religieux. Elle se pakistanise peut-être aussi en devenant un client state, un État client de grandes puissances étrangères qui vont l'utiliser comme un pivot pour une politique qu'on appelle Indo-Pacifique.
Tout dernier point, Catherine Brosse, peut-être, et revenons sur le paysage politique intérieur, parce que on mentionnait tout à l'heure ce paradoxe qui est que Narendra Modi, au fond, n'a pas un bilan économique aussi satisfaisant qu'on aurait pu l'espérer, et en même temps, il continue d'attirer les électeurs. Est-ce qu'au fond, cette force n'est pas avant tout le résultat de la faiblesse de l'opposition ? Et qu'est-ce qu'on peut encore en attendre aujourd'hui de cette opposition ?
Oui, alors effectivement, l'opposition en Inde est très peine à exister, en fait. D'une part, je pense en réalité, en raison du charisme de Modi, qui est quand même c'est vraiment très étonnant de voir que quoi qu'il fasse, il a quand même une cote de popularité qui ferait pâlir d'envie la plupart des dirigeants dans le monde. Il a 70% de
Raoul Gandhi peut pas en dire autant.
Non,
c'est ça que vous voulez dire.
Oui, très loin. Et puis, il faut pas sous-estimer aussi le travail de SAP qui a été fait par le BJP sur l'opposition, en créant effectivement un climat de peur, y compris chez les élus, en créant aussi ce qui est beaucoup moins visible pour les puissances étrangères, c'est cette espèce de d'éthos comme quoi si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah vous êtes un mauvais patriote. Et donc ça, ça lamine beaucoup cette espèce de doxa de être un bon patriote. Qu'est-ce que c'est qu'être un bon patriote, etc. Et donc Modi, à la fois un charisme, à la fois a réussi à saper l'opposition via un climat de peur, et aussi éventuellement en rachetant quelques voix au passage. Donc effectivement, l'opposition, elle va beaucoup de mal à exister en Inde. Ouais. Et en plus, le Congrès, quand même, et surtout la dynastie Gandhi, traîne quelques casseroles derrière eux, et notamment, je dirais, l'exact inverse, quelque part, de Modi, c'est-à-dire le parti qui a pas fait grand-chose, qui est là depuis très longtemps, qui ronronne, etc. Et donc, il y a quand même une relativement mauvaise image. Ouais, et qui a été aussi très largement corrompu avec des histoires de corruption, etc. Là où Modi est monsieur main propre.
Christophe Jaffrelot, en quelques mots, on arrive vraiment au terme de cette émission, peut-être en guise de conclusion sur cette opposition qui peine à exister.
J'ajouterais qu'elle peine à exister parce qu'elle a du mal à accéder à l'espace public. Non seulement il y a la peur qui vraiment tient au ventre les journalistes qui osent parler contre le pouvoir, mais il y a aussi le fait que les chaînes d'information continue, tous les grands groupes de presse sont maintenant à la dévotion du pouvoir. Donc l'espace de liberté d'expression s'est beaucoup réduit pour les opposants. Et ça m'amène à un dernier point. On ne peut pas comprendre la crise agricole actuelle et la popularité de Modi si on ne sait pas qu'il y a derrière les grands groupes industriels. Modi n'est pas du tout un libéral en économie. Il n'est pas market friendly. Il est business friendly. On est en train de créer des oligopoles. On est en train de voir des oligarques se partager l'économie indienne. Et donc, ils financent les campagnes électorales. Le BJP a dépensé 3 milliards de dollars lors de la dernière campagne électorale. Et en échange, eh bien, ils ont des secteurs entiers de l'économie. Et le prochain, peut-être, ce sera justement l'agribusiness, ce fameux objectif qu'en tout cas Reliance Ambani est en train de mettre sur son agenda.
Merci beaucoup Catherine Brosse d'avoir été avec nous. Christophe Jaffrelot également, je rappelle, Christophe Jaffrelot, vous êtes l'auteur notamment de cet ouvrage qui était paru chez Fayard l'année dernière, L'Inde de Modi, national, populisme et démocratie ethnique. On mettra évidemment la référence de l'ouvrage sur la page de Culture Monde. Un grand merci également à Maximo, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. On se retrouve la semaine prochaine. Dans un très court instant, c'est Lucille Como et La Critique.
France Culture. L'esprit d'ouverture.